Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Hélène, bonjour Marine, merci d'être présente avec moi aujourd'hui, comment ça va ?
Très bien, en cœur, très bien.
Super. Bon, c'est vraiment sympa de vous avoir aujourd'hui. En plus, le sujet m'intéresse, c'est un sujet d'actualité. On va parler d'IA, on va parler de formation, donc c'est top. Est-ce que vous pourriez commencer l'épisode par vous présenter et me raconter pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Eh bien, je vais commencer. Donc, Hélène Chinal, moi, je suis directrice de la transformation pour Capgemini Europe du Sud. Donc, l'Europe du Sud, c'est France, Espagne, Italie, dans les grands pays, puis un certain nombre d'autres pays.
D'autres, ils comptent pas.
Voilà, non, ils comptent. Ouais, mais ils sont moins gros pour Capgemini, en tout cas. Et puis, je suis aussi vice-présidente d'une association qui s'appelle Impactia. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Alors, peut-être aussi, j'ai une autre caractéristique, c'est quand même que j'ai créé le réseau Women at Capgemini il y a 11 ans en France. Et donc, vu le sujet dont on va parler, voilà, cette fonction-là, ce rôle-là, je suis très engagée dans la place des femmes au sein des entreprises, au sein de la mienne, mais du coup, les biais de genre dans l'intelligence artificielle est un sujet qui, pour moi, est très, très important.
D'accord. Ouais, et puis surtout à Capgemini, qui est quand même une entreprise d'informatique, il y a quand même plus d'hommes en général, donc j'imagine le sujet est très central. Mais on y reviendra.
Pour le coup, on n'est pas si mauvais que ça, parce que quand D'accord. on voit le nombre de femmes qui sortent des écoles et le pourcentage de femmes au sein de Capgemini, on est plutôt pas si mal en ce qui concerne Capgemini.
Et bah, c'est que vous avez bien travaillé du coup sur les 11 dernières années. Marine, je veux bien petite présentation.
Oui. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis Marine Rabérin. Je travaille chez Lenovo. Je suis directrice pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du segment éducation, donc tout ce que Lenovo propose en termes de solutions et de matériel pour le monde de l'éducation. Et un peu comme Hélène, aujourd'hui, j'interviens aussi avec ma casquette, avec une autre casquette, qui est une casquette associative, puisque, au titre de Lenovo, je dirige le réseau diversité chez Lenovo France et nous sommes partenaires d'Interel, du cercle Interel. Et donc, c'est au sein de ce cercle, de ce réseau d'entreprises que j'ai développé et je lead depuis 5 ans maintenant le groupe de travail qui s'appelle Femmes et IA, donc qui est là pour accompagner les entreprises pour développer, pour utiliser des solutions d'intelligence artificielle qui soient responsables et non sexistes, donc qui n'amplifient ni ne génèrent des biais de genre.
Ce qui est un vrai sujet d'actualité, mais alors avant qu'on rentre dans le détail de l'IA et de comment ça fonctionne et ce que vous voulez me raconter là-dessus, est-ce que on peut revenir un petit peu dans le passé et m'expliquer pourquoi vous êtes dans ces associations et qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui ? Pourquoi vous vous êtes rencontrés ? Pourquoi vous êtes ensemble là aujourd'hui ?
Alors, déjà, pourquoi Impact AI ? C'est une association qui a été créée au moment du rapport Villani, dans laquelle nous avons été sollicités pour participer et d'entrée Capgemini a souhaité être membre de cette association pour une IA responsable. Voilà, donc on a participé comme membre fondateur au sein de cette association et je vais peut-être laisser du coup Marine expliquer pourquoi Cercle Interel et pourquoi finalement nous nous sommes alliés ensuite. Hein, voilà.
Alors effectivement, en ce qui me concerne donc et en ce qui concerne le Cercle Interel. Donc, le Cercle Interel, c'est une association qui est un réseau de réseaux diversité d'entreprises qui œuvrent dans le secteur technologique et industriel. Donc, il y a entre 15 et 20 entreprises membres du Cercle. Et en fait, c'est un cercle qui œuvre pour l'égalité professionnelle femmes-hommes dans un secteur, effectivement, on en a parlé en introduction tout de suite, qui en général a une représentation féminine moindre. Et puis, il y a cinq ans, avec l'émergence du sujet d'intelligence artificielle, on s'est quand même posé la question, finalement, est-ce que l'IA va être un levier pour nous aider dans notre quête, on va dire, d'une meilleure égalité professionnelle, ou est-ce qu'au contraire, ça va peut-être nous rendre la tâche encore plus difficile et voire même nous faire reculer sur les progrès qu'on a pu faire ces dernières années. Donc, on s'est attelé à mieux comprendre ce qu'était l'IA et en quoi il pouvait jouer un rôle là-dessus. Et effectivement, on a identifié qu'un certain nombre d'outils qui utilisaient l'intelligence artificielle pouvaient, eh bien, venir mettre à mal tous les efforts qu'on avait menés sur l'égalité professionnelle. Et notamment avec des outils de recrutement qui mettaient de côté des CV féminins, avec des outils dans le secteur de la finance, en fait, qui accordaient des crédits moindres aux femmes qu'aux hommes à situation socioprofessionnelle équivalente. Et là, on s'est dit, ah non, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on travaille sur ce sujet. Donc, on s'est attelé à effectivement proposer une méthodologie pour accompagner les entreprises et faire en sorte que l'IA soit un levier et non pas un risque pour l'égalité professionnelle. Et dans ce cadre-là, on a tout de suite travaillé de concert avec d'autres associations qui œuvraient dans le même sens pour une IA responsable, éthique. Et naturellement, en fait, on s'est rencontrés, je ne sais plus exactement dans quelles conditions.
Il y a 3 ans, je
Il y a
crois, à
trois
peu
ans,
près.
effectivement, on était portés par un objectif commun, des valeurs communes. Et donc, naturellement, on a bien vu les synergies qu'il pouvait y avoir entre nos associations et on s'est portés. On s'est valorisé les unes les autres, valorisé les initiatives de chacune des associations. À chaque fois qu'on pouvait prendre la parole, voilà, on manquait pas de se soutenir. Et puis est venue au sein d'Impactia une commission particulière sur l'éducation. Et
Ouais,
bien tu
bah,
pourras en
ouais,
parler.
voilà, je vais peut-être
Ouais.
revenir à ça. Donc, moi, d'entrée, j'ai souhaité, dans le panorama des sujets portés par Impact AI, me porter sur l'éducation, en fait, puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, sachant que je fais le lien aussi avec mon rôle transformation, veut dire aussi éducation. Il y a tous les sujets autour de l'IA de confiance, finalement, et de la confiance que les citoyens peuvent faire ou non, d'ailleurs, à l'intelligence artificielle. À l'époque où on a créé l'association, le sujet, c'était de faire connaître et d'essayer de réduire les peurs que peuvent avoir les citoyens autour de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Donc ça a beaucoup évolué. Et donc, sur l'éducation, ce groupe de travail a travaillé sur des sujets proposé par les membres de l'association. Un des derniers produits qu'on a fait, et on le fait systématiquement d'ailleurs en partenariat avec d'autres parce qu'on est plus fort en alliant les compétences. Pour moi, c'est une des grandes forces de ce collectif Impactia, c'est qu'il y a une diversité de membres. Dans les 70 membres, il y a des écoles, il y a des entreprises, il y a des startups, il y a des institutionnels. Donc, il y a une variété d'acteurs qui donnent énormément de richesse. Donc, évidemment, dans la partie éducation, on a quelques écoles et c'est très bien, hein, puisque elles ont des besoins, elles ont un regard, mais il y a aussi pas mal d'entreprises. Et donc, un des sujets sur lesquels on a travaillé, c'était l'accessibilité. Comment l'intelligence artificielle peut rendre plus accessible à des personnes en situation de handicap un certain nombre d'outils. Donc voilà, c'est un des livrables qu'on a produit parce que nous avions quelqu'un de moteur sur ce sujet. Et quand on s'est rencontrés avec Marine, on s'est dit, bah, en fait, il y a un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres personnes autour de nous, qui est finalement les biais qu'il peut y avoir à l'intelligence artificielle. Comment les réduire? Alors évidemment les biais de genre, parce que ce sujet nous tient à cœur, mais pas que ceci. Et d'ailleurs, dans la formation, on l'a conçu de façon un peu plus large que les sujets des biais de genre, hein, avec une ouverture, et finalement, pas pour des gens qui sont spécialistes de l'IA, mais j'ai envie de dire pour le commun des mortels, plutôt adultes, hein, on n'est pas sur des cibles, on est sur des cibles professionnelles ou éducation supérieure, et se dire, voilà, comment faire prendre conscience à des utilisateurs de l'intelligence artificielle, les biais qu'il peut y avoir, et comment eux, en tant qu'utilisateurs, peuvent aider à les réduire aussi, puisque l'intelligence artificielle, c'est plusieurs éléments qui se combinent entre les bases de données qu'on exploite, mais aussi l'algorithmique. Et il y a plein d'exemples assez célèbres de biais qu'on conduit finalement à des
Alors,
productions.
allons-y, soyons un peu précis. Prenons peut-être un exemple, parce qu'on parlait par exemple de la sélection des CV qui discriminaient a priori les femmes. Et donc, sur quel critère, comment ça se fait déjà qu'il y ait de la discrimination et comment vous ajustez parce que finalement, on pourrait se dire qu'un algorithme, bah, c'est une machine, il n'y a pas de subjectif, donc il y a forcément a priori un algorithme derrière. Est-ce que c'est la personne qui a écrit l'algorithme qui lui-même était biaisée, ou est-ce que c'est les données qui sont biaisées? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un biais à un moment et qu'on peut
Potentiellement les
avoir un
deux.
exemple concret? Potentiellement les deux, très bien.
Ouais. Et justement, c'est ce qu'on explore au sein de la formation, c'est décortiquer ce qu'est la création d'une solution d'IA, Donc, qu'est-ce qui rentre en jeu quand on crée une solution dans le processus? Et à quel moment, justement, les biais peuvent se nicher? Et vous avez cité, justement, les deux principaux risques. C'est effectivement au moment de la conception de l'algorithme. Est-ce que la question qui est posée et qui est développée elle-même n'intègre pas un biais? Et puis ensuite, l'intelligence artificielle, elle appuie sa réponse sur des données du présent, des données aussi du passé. Et donc, ces données elles-mêmes, finalement, intègrent des biais que tout un chacun en tant qu'humain on peut avoir, et elle les accumule, elle potentiellement les renforce, et l'IA va non seulement utiliser ces données, mais apprendre à partir de ces données, et donc peut-être apprendre.
Est-ce qu'on peut nommer un ou deux de ces biais concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se retrouve à avoir une décision plutôt qui tend vers l'un ou l'autre et que ça nous dérange?
Je peux illustrer l'exemple que je tenais tout à l'heure sur la sélection de CV. D'ailleurs, c'était un prototype qui a heureusement été identifié comme étant discriminant et arrêté. Mais qu'est-ce qui fait que le CV, en fait, enfin que l'outil mettait de côté des CV féminins? C'est parce que dans un type de poste particulier, il avait identifié que, en général, pour ce type de poste, les personnes qui occupent sont des personnes de sexe masculin ou avec des activités plutôt liées à des cercles masculins, et finalement c'était pas l'IA n'avait pas appris à dire c'est une femme, je rejette évidemment. Par contre, il avait appris que des types de profils correspondaient mieux à ce type de poste, et en général ces profils-là n'étaient pas des profils féminins. Il y avait même, je crois qu'il y avait une étude plus poussée sur ce sujet-là, et en fait qui montrait que même si quelqu'un en fait la personne pouvait être discriminée ou son CV rejeté parce qu'en fait, elle indiquait que dans le monde associatif, elle faisait partie du club d'échecs féminin. Donc, voilà, ça se niche dans… c'est beaucoup plus subtil, en fait, que ce qu'on peut imaginer. Bien sûr qu'un concepteur d'algorithme ne va pas, par défaut, vouloir exclure. Mais oui. En fait, c'est l'IA et son mode d'apprentissage qui va apprendre peut-être… de manière biaisée.
Oui, c'est ça, par la fréquence des données finalement qu'elle exploite, qui vont être des données représentatives d'hommes, finalement, elle va dire que le critère de sélection, c'est un critère masculin.
Et alors, pour l'éditeur du logiciel, et après on parlera de comment nous on peut réagir par rapport à tout ça, mais pour l'éditeur du logiciel, est-ce que parfois on devrait presque mettre un biais dans l'autre sens, volontairement, en disant là on a fait ça, du coup on va favoriser, est-ce qu'on doit mettre une pièce dans la machine dans l'autre sens pour dire là il faut en fait biaiser finalement plus pour les femmes, parce que la moyenne aujourd'hui par exemple dans les ingénieurs c'est plus des hommes j'imagine, donc l'intelligence artificielle va dire en moyenne un homme est plus susceptible de rentrer dans la catégorie, c'est ce que vous me dites, hein, et donc on devrait dire là on va mettre un scoring plus élevé. Comment vous retrouvez à décider finalement de la valeur à mettre, c'est quoi l'objectif vraiment? Est-ce que c'est par rapport à un pourcentage, par exemple si on prend le CV encore une fois, hein, de candidature, on doit avoir 50% de personnes qui sont prises à la fin, femmes-hommes, ou est-ce que c'est plutôt 50% des candidatures qui doivent être traitées équitablement? Comment on décide de tout ça? Comment on arbitre?
Typiquement, c'est les paramètres de l'algorithme qu'il faut ajuster en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Après, je pense qu'il n'y a pas de loi générale, hein, en fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut lui donner des critères plus fins que ceux que naturellement on mettrait, parce qu'on est biaisé dans nos raisonnements.
Et il faut pouvoir, donc effectivement, je rejoins Hélène, tout dépend de l'objectif recherché, et puis il faut pouvoir comprendre effectivement qu'il y a des risques de biais et pouvoir neutraliser ces risques si effectivement l'objectif est d'avoir une représentativité à 50-50 hommes-femmes dans le recrutement. Donc il faut pouvoir le connaître pour savoir où aller, où mener les actions au niveau de la source et potentiellement les neutraliser.
Oui, donc avant tout faire attention à l'objectif, pas se dire je veux recruter la meilleure personne, mais peut-être se dire tiens, je vais mettre quand même que je veux recruter 50-50 d'abord, et puis après, là-dedans.
En fait, définir je veux recruter la meilleure personne, c'est quoi la meilleure personne? C'est plutôt ça à quoi il faut réfléchir. Et c'est probablement plus lié à des compétences qu'à des critères naturels.
Et si malheureusement on se retrouve dans une situation où l'IA nous dit en moyenne, la meilleure personne par rapport aux compétences, c'est telle ou telle, que ce soit une femme dans l'autre sens, hein, ça pourrait aussi être ça. Est-ce que on encourage l'IA à faire plutôt un choix dans l'autre sens en lui mettant justement un petit biais ou pas? Ou est-ce qu'on
Tout dépend de l'objectif recherché.
Oui, je pense qu'on ne peut pas faire une réponse générique là-dessus.
Oui, tout dépend de... En plus, là, on a pris l'exemple du recrutement, qui est un exemple très particulier.
Il y a des exemples assez célèbres sur des algorithmes qui allaient définir des critères pour attribuer un prêt. Voilà. Du coup, avec les biais que portait l'algorithme, eh ben, une femme, elle avait un droit à emprunter beaucoup plus faible que la personne qui avait fait
D'accord.
exactement le même parcours, qui était exactement au niveau professionnel, sur des critères qui, finalement, sont des
Oui.
critères.
Donc, à compétences égales, il est sûr qu'on doit en tout cas
À
arriver.
compétences, poste égal, rémunération égale, ben, l'algorithme ne donnait pas la même chose.
Ouais, et là, c'est clair qu'il y a un problème, c'est sûr. Ok. Et alors, vous évoquiez à un moment que l'IA doit être éthique. Moi, je vois la régulation en Europe qui arrive. On a un petit peu peur de l'IA, peut-être aussi d'une certaine manière. Comment vous traitez ce sujet aujourd'hui et qu'est-ce qu'une IA éthique, selon vous, ça veut dire quoi?
C'est une IA qui répond à un certain nombre de critères. C'est quand même assez complexe ce sujet, hein, pour le coup. Impact IA a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il est publié notre position paper.
Bientôt.
Bientôt, d'accord. Donc, on va publier un position paper qui est aussi lié, qu'on a développé suite à tous les mouvements autour de la régulation, autour de l'IA et ce que c'est qu'une IA éthique. C'est de base sur quoi on travaille. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du sujet parce que moi, impliqué directement sur cet aspect, mais la formation est absolument clé pour avoir une IA éthique. Et ce qu'on a construit ensemble avec le Cercle Interrel, c'est dans cet objectif justement de faire que le maximum de personnes aient les connaissances qui leur permettent de réagir indépendamment de la réglementation que nul n'est censé ignorer. La réalité, elle est dans le quotidien en fait. Et on est tous usagers aujourd'hui, comme d'Internet, d'intelligence artificielle, sans le savoir.
Et pardon, et j'allais dire effectivement que il y a ce que par exemple l'Union européenne met en place autour de l'AI Act, donc qui définit effectivement, qui tend à définir ce qu'est une IA éthique. Mais je pense que avant même qu'il y ait de la réglementation autour de ces sujets-là, ce sujet enfin, les associations, les entreprises se sont emparées de ce sujet, se sont déjà posé la question à quoi
Bien
ressemble
sûr.
un sujet, une IA éthique. Effectivement, enfin, Impact IA a défini sept,
Ouais,
hein,
sept. Ouais, je peux les citer,
ouais.
hein, si vous voulez, hein. Dignité.
Allons-y.
Robustesse, très très important, hein, et dans ce qu'on a évoqué, il y a la robustesse. Il y a la gouvernance des données, parce qu'on voit que les données ont un impact énorme sur le fait que l'IA produise des résultats fiables ou pas. La transparence, qui est un sujet aussi assez complexe, hein. L'équité, typiquement, quand on parle de biais de genre, ben on parle d'équité aussi, hein.
Clairement.
Le développement durable et le bien-être, bon, on balaye large,
Le plus
hein.
difficile avec l'IA en l'occurrence.
Non, non, ça peut réellement être un facteur de bien-être, hein, de développement durable et de bien-être.
D'accord.
C'est peut-être pas intuitif, mais il y a vraiment de la valeur à apporter. Enfin, je pense que le motto d'Impact IA, c'est justement au départ. Je me souviens qu'il y avait énormément d'articles dans la presse qui étaient extrêmement anxiogènes autour de l'IA. Je pense qu'il y a toujours une anxiété, hein, très, très forte. Mais je pense que depuis quelques années, on a quand même démontré que l'IA, ça avait aussi. Enfin, c'est comme tous les progrès, en fait, hein. Il y a la face un peu sombre et la face un peu plus claire. Donc, moi, je suis convaincue, et Impact IA est convaincue qu'on peut avoir une IA confiance. Et le dernier point, c'est la responsabilité. Parce qu'il faut. Faut être capable de rendre des comptes finalement sur ce que produit l'IA. Donc, une IA responsable, c'est ça. Voilà
Ok.
les sept critères. Et voilà, et cette formation, elle est contributrice à ces valeurs.
Et alors, tu m'as fait une superbe transition. Donc, on parlait des éditeurs de logiciels, ceux qui créent l'IA, les algorithmes, donc qui sont quand même les maîtres de tout ça, je dirais, à la base, et qui doivent faire le plus attention. Mais donc, en tant qu'utilisateur, on est victime, ou en tout cas, on est utilisateur de ces solutions. Comment on peut réagir, comment on a conscience? Alors j'imagine que si on veut aller en détail, il y aura toute la formation à regarder. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut la trouver, la formation aujourd'hui?
Sur le site d'Impact IA, elle est disponible en ligne. Il y a déjà un certain nombre d'écoles ou de professionnels, ou de gens d'ailleurs, hein, qui ont testé la formation à titre personnel. Et ce qu'on a voulu, c'est que ce soit une formation libre d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, elle est libre de droit, en fait, et elle peut être utilisée par
Donc,
l'ensemble
si
des.
vous travaillez dans un établissement supérieur ou un organisme de formation, on peut réutiliser, voilà, cette
Tout à fait.
formation. Ça peut être un super point, un super contenu pour vous. Et donc, dans les grandes lignes, si on devait retenir deux, trois points, en tant qu'utilisateur, à quoi je dois faire attention quand j'utilise l'IA. Si par exemple je suis dirigeant et que je prévois d'utiliser de l'IA dans ma société, moi je maîtrise pas la technologie mais je vais l'utiliser quand même, et peut-être en tant qu'utilisateur final j'utilise ChatGPT pour des petites tâches, est-ce qu'il y a des biais pareils auxquels il faut faire attention?
Mais en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, être au fait qu'il y a des risques potentiels de discrimination. Donc, c'est cette importance de la sensibilisation. Et là-dessus, tout un chacun, effectivement, peut se responsabiliser pour aller chercher de l'information, pour comprendre. Mais là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer pour sensibiliser, par exemple, leurs salariés, pour que voilà, tout un chacun au sein de l'organisation puisse être au courant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, je dirais, c'est interroger, poser les questions auprès de... Si par exemple, on s'apprête à acheter une solution d'IA ou à utiliser une solution d'IA, c'est poser les questions autour de la manière dont le logiciel a été développé, attribuer des critères de sélection en fonction, effectivement, de la manière dont cette solution a été développée, est-ce qu'elle a pris en compte dans son développement les risques et comment est-ce qu'elle les anticipe, quel type de gouvernance elle a mis en place. Et en fait, en challengeant finalement les choix de solutions d'IA, c'est aussi ce qui permettra potentiellement aux entreprises elles-mêmes de se poser les bonnes questions. Donc, c'est un cercle vertueux finalement en interrogeant les fournisseurs de logiciels, c'est aussi permettre de continuer ce questionnement et cette dynamique pour une IA vertueuse.
Oui, je souscris totalement. Et en fait, la transparence, pour le coup, est très importante. Donc, se poser la question de la solution qu'on envisage d'acheter ou d'utiliser, finalement, comment est-ce qu'elle a été construite ? Obligation de transparence pour voir les risques qu'elle présente. Et moi, un point qui me semble très important, c'est le développement de l'esprit critique. Je pense que ça, c'est une opportunité. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer complètement dans tous les cycles de formation, du plus jeune jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. C'est du coup, voilà. Et je pense que l'IA, c'est une invitation au développement de l'esprit critique, au sens constructif du terme, de se poser les questions de qu'est-ce que j'utilise, comment je l'utilise et quels sont les risques que je prends et comment je les maîtrise.
Et pour vous, dans la formation, là, moi, imaginons que je suis étudiant en école de commerce, je suis un peu tenté d'utiliser ChatGPT pour aller un peu plus vite. C'est quoi, de votre point de vue, une bonne utilisation de l'IA et une mauvaise utilisation de l'IA? Où est-ce qu'on trouve la limite? Est-ce que bannir, comme on l'a fait à New York à un moment, complètement ChatGPT est une bonne idée? Ou est-ce que à l'inverse, laisser complètement libre en est aussi une bonne?
Je vais faire une réponse personnelle, là, pour le coup.
Oui.
Moi, je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Hein. Alors, en plus, quand on interdit, on est sûr que ça va être utilisé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est exactement ce que je viens de dire. Je pense que faut pas prendre pour argent comptant ce qui est produit par ChatGPT, parce que là, on sait que c'est bourré de biais quand même. Hein. C'est extrêmement performant, sauf qu'il faut pas prendre le résultat tel qu'il est. Je pense que utiliser ChatGPT en termes d'outils de productivité, en se posant la question de ce qu'il produit et en créant son propre résultat à partir de ça, oui, ça peut être utile.
Et finalement, il y a beaucoup de...
Et dans le monde professionnel, c'est un autre aspect. Pour le coup, je pense que là, il faut prendre d'autres précautions, notamment sur la propriété intellectuelle, éventuellement ce qu'on injecte à l'intérieur de ces moteurs.
Et j'allais ajouter par rapport à l'utilisation que les étudiants peuvent faire de ChatGPT, il faut peut-être même aller plus loin pour justement expliquer quel est le bon usage de ChatGPT ou d'IA générative, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'en fonction de la question qu'on pose... Là aussi, la question, elle peut être biaisée, donc qu'en fonction de la question qu'on pose, on n'aura pas les mêmes résultats. Quelle est la bonne manière d'interroger en fait ces IA génératives pour obtenir des résultats qui soient fiables, réitérer les questions sous différents angles. Enfin, il y a toute une méthodologie à développer pour s'approprier l'outil. Donc, on a tendance à penser que l'outil, il est intuitif, et en fait, non. Non, il y a une méthodologie à développer pour pouvoir bénéficier des avantages de ChatGPT, d'IA générative, de manière plus pertinente. Donc, je pense qu'il va falloir plutôt compléter, aller plus loin pour donner le mode d'emploi de comment utiliser les IA génératives.
Mais alors, tout ça, ça va super vite. C'est-à-dire que le mode d'emploi de ChatGPT aujourd'hui, c'est on met des prompts et donc on le fait à la main peut-être là maintenant. Mais bon, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Dans 5 ans, ce sera peut-être encore autre chose. Peut-être qu'on le fera avec des lunettes, avec Vision Pro, et il n'y aura plus de texte et on le fera à la voix. Ce sera complètement différent. Donc, est-ce que On devrait avoir des formations en école, peut-être d'ailleurs dès le lycée, en primaire, sur les outils, ou est-ce que c'est peut-être plus sur l'esprit critique qu'on devrait avoir une formation directement?
Bah, j'ai envie de dire que c'est à mon avis, hein, mais c'est à nouveau, je parle en mon nom, c'est sur l'esprit critique et le développement de méthodes, justement, comme disait Marine. C'est comment bien utiliser ces outils et comment finalement prendre un pas de recul par rapport à je pose une question et j'ai une réponse et je l'avale. Et
Ouais.
moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre toute l'énergie.
Et ce sera utile, pas que pour l'IA d'ailleurs.
Non, on est d'accord. Et aussi pour l'utilisation des réseaux sociaux et autres.
Et je pense qu'il faut aussi, mais ça va certainement se développer dans ce sens-là, remettre l'IA à sa place. L'IA, c'est un outil. Et c'est ce qu'on promeut, c'est rappeler effectivement que l'IA est au service de l'homme. Donc c'est un outil, comme un outil nouveau, performant, qu'il faut apprendre à appréhender. Mais c'est aussi, en disant ça, c'est aussi l'idée de désacraliser l'IA. L'IA, c'est pas une boîte noire. On parlait tout à l'heure de transparence. Bien comprendre que l'IA, c'est fait de données, c'est fait d'ingénieurs qui vont créer des outils et des algorithmes. Donc, désacraliser pour remettre l'IA à sa place d'outil.
Et il faut qu'on ait des ingénieurs, eux, pour enlever des biais.
Oui, c'est sûr, parce que forcément, si les personnes qui créent les outils sont déjà des hommes, voilà. On va forcément encourager les biais de base, statistiquement parlant. Ok, et alors je vais terminer sur une question avant qu'on passe sur les questions de la fin, fil rouge de l'épisode. C'est peut-être plus pour Marine, mais bon, la question se pose pour les deux personnes, évidemment. Je sais que Marine, tu avais formé 1200 collaborateurs, en tout cas contribué à la formation de 1200 collaborateurs il y a un petit moment maintenant. Si aujourd'hui, tu devais refaire la formation, comment tu la referais, comment tu intégrerais l'IA et comment tu vois l'IA finalement s'intégrer dans les formations concrètement dans le futur?
Alors effectivement, et puis ça pourra faire un pont vers les questions fil rouge. Moi, j'avais créé donc il y a à peu près 6 ans, tout, on va dire l'école de vente au sein de Lenovo, et donc avec objectif, et on a pu former 1200 personnes, et puis ça continue aujourd'hui. Et à l'époque, on n'a pas du tout intégré l'IA comme étant une composante en fait de cet outil là et alors qu'aujourd'hui ce serait effectivement indispensable. Et je pense que la manière dont je l'intégrerais et dont on l'intègre aujourd'hui, c'est faire en sorte de personnaliser le parcours de formation des utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que je disais certainement, ça peut faire un lien avec, un pont avec les questions fil rouge, parce que finalement, c'est l'adaptation du contenu et de la formation à chaque individu. Et c'est d'ailleurs, donc, moi qui travaille dans le monde de l'éducation, donc qui côtoie effectivement des éditeurs de logiciels dans le monde de l'éducation, ça a été une des premières utilisations de l'IA dans le monde de l'éducation. C'est adapter le parcours de l'étudiant ou de l'enfant dans son apprentissage.
Super. Hélène, un commentaire là-dessus ? Ou est-ce qu'on passe aux questions suivantes ?
Bah, en fait, j'ai envie de répondre par rapport à la question suivante, qui est comment on voit la formation ?
Et bah, allons-y, alors je vais la poser directement. La formation dans 10 ans, pour vous, c'est quoi ?
Pour moi, c'est une formation inclusive et adaptée à l'individu. C'est-à-dire que je pense vraiment que l'IA peut permettre de contextualiser en fonction dans un parcours de formation et s'adapter finalement à avoir une formation adaptative à la personne, accessible aussi au sens inclusion de tous les profils, y compris les personnes en situation de handicap qui finalement sont fort nombreuses dans la société. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une formation qui utilise tous les éléments de la technologie qui permettent d'avoir la formation la plus ciblée possible pour être adaptée à la personne à qui elle est délivrée. C'est comme ça que je vois la formation magique.
Et effectivement, donc on parlait de l'intégration de nouvelles technologies, évidemment de l'IA qui est un point très important. Moi, je vois aussi des outils technologiques, pas forcément de l'IA, mais qui complètent et qui vont dans le sens de s'adapter au parcours de chacun, notamment toutes les technologies autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui dans un parcours de formation peut vraiment avoir du sens en termes de pratique. Et puis, ce que je vois aussi comme tendance, c'est la partie gamification, comment on intègre typiquement, par exemple, le e-sport comme étant un outil aussi d'apprentissage. Donc moi, j'aime bien regarder aussi cette tendance-là, de rendre plus attrayant et plus, plus vivant, plus interactif, les formations.
Génial. Génial, génial. Alors, question suivante, est-ce qu'il y a une personne ou un média que vous suivez dans l'univers de la formation, quelqu'un qui vous inspire ou un média qui vous permet de vous tenir au courant?
Alors, moi, je... Alors, pas forcément, parce que... Enfin, en tout cas, c'est pas la majorité de mon temps, mais il y a quand même... sur LinkedIn des personnes que je suis et ça m'a fait sourire quand j'ai vu que vous l'aviez interviewé il y a quelque temps Nomade Éducation avec Caroline Métro. Je regarde un petit peu effectivement ce qu'elle fait et la manière dont aussi elle promeut ce sujet-là, l'utilisation de l'IA dans le monde de l'éducation. Voilà.
Moi, à titre personnel, c'est vraiment le podcast en fait qui est devenu mon outil de formation.
D'accord.
Dès que je fais un trajet en voiture, j'écoute des podcasts. Et je trouve qu'il y en a vraiment qui sont, voilà, qui me permettent de découvrir finalement des champs qui ne seraient pas venus à l'idée. Donc, je trouve que c'est un outil extrêmement fort pour la formation, le podcast.
Bon, bah, tu prêches un convaincu, hein, tu t'en
oui,
doutes.
Bah, j'en doute pas, mais honnêtement, c'est pas juste pour. Parce qu'on est en train de faire un podcast. C'est mon fils qui m'a fait découvrir ça, qui est beaucoup plus jeune et qui nous a initié au podcast et c'est devenu.
Et c'est quoi le podcast que tu écoutes le plus alors, ou ton dernier que tu as écouté?
Le dernier que j'ai écouté, c'était il n'y a pas longtemps, bah c'était sur les résistantes, c'est un podcast de France Inter, de Radio France, pardon, très très bien fait, qui donne le parcours de femmes connues et moins connues dans la résistance, et bon, alors on est toujours sur le même sujet, hein, mais finalement elles ont été un peu invisibilisées après la guerre.
D'accord, bah, super. Et c'est vrai que les émissions sont d'une autre qualité hein, que le podcast qu'on a ici. Mais,
ah non, mais ah non, on a plus de ça.
Mais non, mais on peut le recommander en tout cas chaudement. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez sur votre table de chevet?
Bah en fait, moi j'ai une pile de livres. Je ne peux pas vivre une journée sans lire. Et pour le coup, c'est pas une tablette, ce sont des livres. Roman, bon, un des bouquins qu'on vient de m'offrir et dédicacé, que je viens de commencer, c'est un livre écrit par quelqu'un qui a créé la cyberdéfense en France, qui s'appelle Arnaud Coustillère, et avec qui j'ai travaillé beaucoup, voilà, qui me l'a offert, donc je suis en train de lire ce livre.
Bon, alors pour ma part, effectivement, il y a un livre qui est sur, qui traite de l'IA sur ma table de chevet, qui est alors exactement, il s'appelle Les robots émotionnels de Laurence de Villers. Et puis sinon, moi, c'est plutôt roman. Alors, je viens de terminer un roman d'un auteur japonais, Tant que le café est encore chaud. Donc là, on est vraiment sur autre chose.
Ok. Est-ce qu'il y a un outil plutôt digital que vous avez envie de partager aujourd'hui?
Moi j'ai l'impression de passer ma vie sur des outils digitaux en fait, hein, que ce soit professionnellement ou personnellement, entre mon mobile, ma tablette et mon ordinateur professionnel, c'est vraiment l'outil. Alors, après c'est pour ça que moi j'aime bien décrocher et prendre un livre vrai en papier à un moment donné dans la journée pour me déconnecter, mais en fait c'est devenu un outil pour tout, hein, que ce soit... pour commander un voyage, pour faire une recherche. Évidemment, on passe notre vie aujourd'hui avec le télétravail devant nos ordinateurs avec les outils numériques. Donc, je ne sais pas vraiment caractériser. J'ai l'impression qu'ils m'ont quand même beaucoup envahi, en particulier depuis 2020.
Non, bah, pour ma part, effectivement, dans le cadre là, on parlait des outils digitaux autour de la formation, peut-être particulièrement.
Pas nécessairement, ou quelque chose que tu apprécies en particulier, que tu as envie de partager?
Non, peut-être, je pensais à quelque chose qui est franchement pas nouveau, donc là je vais faire un petit peu quasiment has-been, mais dans le cadre des réunions que j'anime avec mes équipes, bah, finalement je me suis mise à des outils d'interactivité, comme les Kahoot, choses comme ça. Alors c'est franchement pas nouveau, hein, donc là je rattrape
un peu. Ça n'a pas besoin d'être nouveau pour être bien. Hein,
ouais, finalement, je le faisais pas, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment sympa dans le cadre dans l'animation de réunions, et puis du coup dans cette même lignée, du coup, j'ai aussi découvert certaines nouvelles fonctionnalités de notre plateforme de call en fait. Microsoft pour pas la sauter, pour pas la comment
pas
la
la
cité,
nommer.
faut pas la nommer, voilà. Mais du coup, je m'aventure à tester des nouvelles fonctionnalités, notamment en termes d'interactivité, des enquêtes qu'on lance en même temps que la réunion. Enfin voilà, donc je m'amuse un peu là-dessus. Voilà, j'ai l'impression d'explorer un nouveau territoire qui est pourtant pas franchement nouveau, mais bon voilà.
Bah, on n'utilise souvent que 10% de nos outils, hein, donc
Exactement.
c'est pour
Donc
ça
là,
qu'il faut explorer. Hein.
c'est sûr. Donc peut-être le message, explorez vos outils, vous aurez peut-être de belles surprises.
Ouais.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Digitalement plutôt, je suppose.
LinkedIn.
LinkedIn, très bien.
LinkedIn pour ma part aussi. Et puis peut-être je voudrais mettre en avant aussi qu'on peut nous contacter, que ce soit donc pour l'association Interrel sur le site internet interrel.fr. Donc il y a une page qui est dédiée au groupe Familia avec une adresse email, voilà, et tous les délivrables qui sont téléchargeables à partir du site. Et puis je pense que c'est pareil aussi pour
Pareil pour Impact AI, hein, donc impact-ai, site internet, et là on trouve absolument tout.
Super, et vous aurez les liens dans la description pour ceux qui écoutent. Et donc, Hélène, Marine, merci beaucoup d'être passée dans le podcast. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer l'épisode?
C'était vraiment très très sympathique de pouvoir partager cette expérience et puis surtout que créer de l'envie autour du module qu'on a co-créé avec certains intérêts et Impact IA.
Oui, exactement la même conclusion. S'il vous plaît, que vous soyez institut de formation, école, jetez un œil sur ce module. Il est fait pour vous. Il est mis à votre disposition. On vous incite à vous approprier le module, à le déployer. Voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour vous et on espère effectivement qu'il rencontrera de l'intérêt, de l'adhésion et qu'un maximum, il sera déployé un maximum pour œuvrer dans le sens d'une IA. Non discriminatoire, responsable, voilà. Donc
Génial. Et bah
merci
écoutez,
pour cette
bah
opportunité.
merci à vous, c'était un plaisir et je vous souhaite de très belles formations et à la prochaine. Merci.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.